Frères et sœurs, il y a 40 jours, le 14 septembre, nous avons fêté la croix glorieuse. Nous étions alors 40 jours après la fête de la Transfiguration, où le Christ avait manifesté sa gloire. Et nous voici à présent, dans l'évangile de ce dimanche, à la sortie de Jéricho, à la fin de la montée de Jésus vers Jérusalem, et nous sommes appelés, comme cet aveugle, comme Bartimée, à ouvrir les yeux. Il faut pour cela que nous reprenions d'abord brièvement ce chemin du Christ, cette montée vers Jérusalem. Le basculement dans l'évangile s'était fait avec la profession de foi de Pierre, qui avait eu lieu au lieu dit Césarée de Philippe. Et vous, que dites-vous, pour vous qui suis-je ? Avait demandé Jésus. Et Pierre avait pris la parole, tu es le Christ. 6 jours après, Jésus avait été transfiguré devant eux, sur une haute montagne. Cette haute montagne, nous disons traditionnellement qu'il s'agit du mont Tabor. En réalité, il s'agit plus vraisemblablement du mont Hermon, qui est juste au-dessus, à proximité de Césarée de Philippe, et qui culmine à 2800 mètres. C'est réellement une haute montagne, pas 600 mètres comme le Tabor. La tradition a situé la transfiguration plutôt au mont Tabor, près de Nazareth, d'abord pour une raison pratique, à partir du IVe siècle, pour pouvoir faciliter les pèlerinages, et puis aussi, plus fondamentalement, pour donner la priorité à l'incarnation, au pays de l'origine, à la réalité même vivante de Jésus. Peu importe, il y a un psaume qui dit, c'est le psaume 88, qui dit « Seigneur, Dieu de l'univers, qui est comme toi ?» et qui associe les deux, le Tabor et l'Hermon. Le Tabor et l'Hermon, à ton nom, crient de joie. Mais l'Hermon, c'est la montagne du retour de l'exil. De l'exil ou bien aussi facilement de l'exode. Et même si, après la profession de foi, après la transfiguration, Jésus et ses disciples sont revenus en Galilée, ensuite ils sont revenus. Ils sont revenus vers cette entrée, justement, l'entrée traditionnelle de Josué et du peuple dans la terre promise, au-delà du Jourdain, ce qui est l'actuelle Jordanie, avant de monter à Jérusalem. Et c'est pourquoi nous venons d'entendre qu'ils passent par Jéricho. C'est le passage naturel pour se rendre à Jérusalem. Et Jéricho, vous le savez, c'est une ville à forte valeur symbolique. C'est la ville, dit-on, la plus vieille du monde. C'est en tout cas la ville la plus basse du monde, à 300 mètres au-dessous du niveau de la mer. C'est une ville à forte charge symbolique et historique. Tout le monde se souvient de la destruction des remparts. Elle est le symbole, si on veut, de délivrance. La lettre aux Hébreux dit que grâce à la foi, les remparts de Jéricho sont tombés après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. Et pourtant, de ce passage de Jésus à Jéricho, nous ne saurons rien. Nous ne savons rien. L'Évangile dit simplement, c'est le verset précédent, que Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et ce que nous venons d'entendre, la suite immédiate, nous amène à l'extérieur, à la sortie, à Bartimée, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse. Cette foule nombreuse a été attirée, comme à chaque fois, par la personne même de Jésus. Mais plus concrètement, par sa prédication, par ses discours, sa prédication, et par ses guérisons. Les deux, la prédication et les guérisons, comme les deux commandements de l'amour, comme la vérité et la charité, la prédication et les guérisons. Cette prédication se fait en chemin, elle est itinérante, et c'est pourquoi on cherche à faire taire Bartimée, dont les cris empêchent d'entendre Jésus. Et les guérisons expliquent que l'ordre de Jésus, très simple, appelez-le, ait été transformé si positivement. Confiance, lève-toi, il t'appelle. Et le terme traduit ici par confiance peut se traduire équivalemment par courage. Courage, il vous arrive probablement, comme à moi, de le dire 5-10 fois par jour. En fin de conversation, au moment de se quitter, courage. Voilà une belle phrase sur le fond qui peut être un peu répétitive. Je me suis dit, en travaillant sur cette homilie, je me suis dit, justement, tiens, voilà peut-être un bon appel, j'allais essayer de remplacer courage par confiance. Au lieu de dire tous les jours, 10 fois par jour, courage, je me suis dit, je vais essayer de dire confiance. Eh bien, ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche pas toujours. Ça ne marche qu'avec les personnes qu'on connaît bien, qu'on peut effectivement aider, qui peuvent compter sur nous. Moi, les personnes que je revois, que j'accompagne. Tandis qu'un inconnu, quelqu'un qui passe, on échange quelques mots et puis on peut dire en partant « courage ». C'est beaucoup plus difficile de dire « confiance ». Parce que « courage » renvoie l'autre à lui-même. C'est même une façon de dire « allez, courage, tu ne pourras compter que sur toi ». Tandis que « confiance », c'est quand même beaucoup plus beau, c'est grand. Dans les meilleurs des cas, « courage, confiance, tu pourras compter sur moi ». Tu peux compter sur moi. Peut-être avec plus d'optimisme, tu peux compter sur d'autres. Et dans tous les cas, tu peux compter sur la providence, sur la présence de Dieu dans ta vie. Et je vous propose d'essayer. Essayez donc, si vous êtes un peu fatigué, d'entendre répéter à longueur de journée « courage ». Dans un monde dont il faut bien reconnaître que ce n'est pas la qualité première. Cela ne l'a sans doute jamais été. Mais particulièrement aujourd'hui, dans notre monde, où on préfère, au nom d'une certaine idée de l'unité, on dit même de l'inclusion, on préfère, au nom de cette unité, d'une volonté assez consensuelle, on veut éviter tout ce qui divise, tout ce qui contrarie, tout ce qui peut même exclure. Dans l'Église, nous avons manqué de courage. Et nous en manquons encore, à tous les étages. Notamment à cause de cette idée fausse de l'unité. À cause d'une peur exagérée de ce qui peut diviser ou exclure. Ne chasser personne. On a vu le résultat. L'unité dans l'Église ne peut pas se faire au détriment de la fidélité au Christ. Et s'il faut être lapidaire, dehors les agresseurs! La confiance que nous avons à reconstruire, à restaurer, la confiance ne vient pas du courage, c'est l'inverse. C'est le courage qui vient de la confiance, en particulier pour nous croyants. Je vous rappelle régulièrement que tous les baptisés ont la foi, c'est le don du baptême. Que demandez-vous au Seigneur? Le baptême. Que donne le baptême? La foi. Et nous tous, par notre baptême, nous avons reçu la force du Christ. La force du Christ pour faire face aux épreuves, aux tentations, à tous les découragements. Confiance, lève-toi, il t'appelle. La confiance, chaque fois que quelqu'un nous fait confiance, c'est une façon de nous donner de la force. Pour Bartimée, de se lever, mais même pour nous, quand nous sommes accablés, perdus, désorientés. Je vous invite à lire dans l'Ancien Testament, au livre des Juges, un récit magnifique qui est celui de l'histoire de Gédéon, au chapitre 6 du livre des Juges. L'ange du Seigneur apparaît à Gédéon et lui dit « Le Seigneur est avec toi, saint homme. » Il dit très exactement « vaillant guerrier alors qu'il est en train de battre le blé ». Et Gédéon, qui est un homme plein de bon sens, un homme solide, plein de réalisme, mais pardon, mon Seigneur, pardon, mais si vraiment le Seigneur était avec nous, d'où vient tout ce qu'il nous arrive? Et que répond l'ange au nom du Seigneur? Va, va avec la force que j'ai mise en toi, va avec la force que j'ai mise en toi, et va parce que je serai avec toi. Dans les difficultés, dans les souffrances, dans les épreuves, le Seigneur ne vient pas nous donner une explication. Il est venu s'engager, il s'engage avec nous. Qu'est-ce que vous préférez quand vous êtes dans l'épreuve? Quelqu'un qui vous explique pourquoi vous êtes dans l'épreuve? Ou quelqu'un qui s'engage avec vous, qui vient vous soutenir? La confiance, c'est cela, une aventure. Ose-la, dirait la prière de Mère Teresa. Alors évidemment, il est très facile de se moquer après coup. Comme devant Jésus en croix, il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Tout croyant se verra un jour ou l'autre moqué sur sa foi. Tout croyant un jour ou l'autre connaîtra le trouble, le combat. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi est-ce que Dieu permet cela? Il y a trois réponses qui sont trois conditions de la confiance. La première, c'est souviens-toi. La première condition de la confiance, c'est la mémoire. J'ai confiance en celui, en celle, en ceux qui ont été là quand il le fallait, dont je me souviens qu'ils étaient là. Ils étaient là quand j'en avais besoin. Je me souviens qu'ils ne m'ont pas trompé, qu'ils ne m'ont pas menti. J'ai confiance en Dieu qui ne ment pas. Souviens-toi. La deuxième condition, c'est l'utilisation de notre intelligence. Pour savoir toujours, pour pouvoir discerner, pour savoir en quel domaine faire confiance. Pas de façon à différencier, pas de façon aveugle. En quel domaine, quelles sont les zones de confiance, les domaines de compétences. Bartimée à Jésus ne demande pas de l'argent, pas un travail, pas une épouse et des enfants, pas une maison. Rien de ce qui fait habituellement notre vie. Il veut voir. Et la troisième condition, c'est l'engagement de notre volonté. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est ce que Jésus lui demande, c'est ce que Jésus nous demande à nous. Aie confiance en moi, dit Jésus, parce que j'ai confiance en toi. Dieu nous fait confiance, même lorsque nous ne le méritons pas. Dieu renouvelle toujours sa confiance. Et pour aujourd'hui, retenez simplement ceci. Le courage vient de la confiance. Ayez confiance et prenez courage.